Choa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
For my final address to this chamber, I don't want to just talk about next year. I want to focus on the next 5 years, the next 10 years, and beyond.
Les 5 prochaines années, les 10 prochaines années et au-delà. Le président Barack Obama prononçant son dernier discours sur l'état de l'Union hier soir devant les deux chambres réunies du Congrès, un discours axé sur l'avenir. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 janvier 2016, au micro Idrissa Sedoudia, en compagnie d'Anastasie Toudiech. Nous ouvrons avec l'allocution de M. Obama. Donc, le président Barack Obama, Anastasie Toudiech, a prononcé hier soir son dernier discours sur l'état de l'Union.
Oui, bonsoir Idriss, bonsoir à tous et à toutes. C'est devant un congrès plein à craquer que Barack Obama a prononcé son ultime discours sur l'état de l'Union. Un discours qui a surpris par sa projection vers un futur qui dépasse le temps qui lui est imparti à la Maison-Blanche, vous le disiez tout à l'heure, Idrissa, et par certaines annonces fortes, comme par exemple son offensive pour éradiquer le cancer aux États-Unis. Une lutte contre cette maladie comparée à une nouvelle conquête de la Lune pour laquelle il a missionné son vice-président Joe Biden, dont le fils est mort d'un cancer au cerveau. En même temps qu'il a défendu ses réalisations, l'Obamacare, le mariage homosexuel, une embellie économique, le président a déployé un plan ambitieux en 4 points. L'économie, d'abord, après avoir affirmé avec force la place de l'Amérique au sommet de l'économie mondiale, Barack Obama a souligné les profondes mutations qui traversent le secteur. Des mutations entamées bien avant la crise de 2008, a-t-il jugé, et pour laquelle les Américains sont armés, pour peu qu'ils en appellent à la capacité d'adaptation qui fait l'ADN du pays. Autre point crucial, la sécurité des Américains face à la menace terroriste. Il faut tout à la fois la prendre au sérieux et relativiser la capacité de nuire des terroristes, a affirmé en substance le président américain. On l'écoute.
Both Al-Qaïda and now ISIL.
Les deux organisations, Al-Qaïda et l'État islamique, sont une menace directe pour notre peuple parce que dans le monde d'aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui n'ont aucune considération pour la vie humaine, y compris la leur, peuvent causer beaucoup de dégâts.
L'Afrique aussi a été abordée, quoique brièvement, et sous l'angle de la maladie. Applaudi quand il a annoncé la fin prochaine de la propagation du virus VIH et du paludisme, le président est revenu sur l'action américaine dans la lutte contre Ebola, Barack Obama.
That's how we stop the spread of Ebola in West Africa.
C'est ainsi que nous avons arrêté la progression d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Nos militaires, nos médecins et nos experts en développement ont mis en place une plateforme qui a permis aux autres pays de nous aider à vaincre l'épidémie.
Le président américain a terminé son discours par une adresse à ses concitoyens, les appelant à un sursaut civique. Il a bien entendu le besoin de changement et est prêt à mettre ses dernières forces dans la bataille. Mais ce changement doit être une exigence du citoyen américain aussi, on l'écoute.
But I can't do these things on my own. Changes in our political process.
Mais je ne peux pas faire ces choses de moi-même. Les changements dans notre processus politique ne sont pas simplement liés à qui est élu ou comment il est élu. Cela arrivera si et seulement si les Américains le veulent. Cela dépendra de vous. C'est cela le gouvernement du peuple, par le peuple.
Les supporters, Idrissa, ont pu reconnaître l'Obama du début, qui s'était distingué dans le rapprochement des contraires, pugnacité face aux défis sans écraser, volonté de rallier le peuple américain, tout en lui rappelant la richesse de sa diversité, et une manière d'assumer le leadership sans impérialisme, avec un regret toutefois exprimé clairement, celui de n'avoir pas eu le temps ou la possibilité d'assainir le climat politique.
Le climat politique, les rapports entre démocrates et républicains à Washington, son plus grand regret. Merci Anastasie, nous reviendrons plus en détail avec vous toujours sur les temps forts du discours de M. Obama avec des analyses de politologues dans la seconde partie de ce programme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité maintenant, l'ONU envisage 3 scénarios en cas de dérapage de la crise au Burundi, mais elle reconnaît dans un document interne ne pas avoir les moyens de protéger efficacement les civils si le pire se produisait, c'est-à-dire un génocide. Selon l'AFP, ce mémorandum confidentiel a été adressé au Conseil de sécurité de l'ONU par le chef des opérations humanitaires, le chef des opérations de maintien de la paix, Hervé Là-dessous, les précisions de Jean-Roger Bion.
Même si les casques bleus sont autorisés à utiliser la force pour se défendre et protéger les civils, explique M. Latsou, les Nations Unies sont mal équipées pour monter le type d'opération d'imposition de la paix qui pourrait être requis au terme du scénario 3, c'est-à-dire en cas de génocide. Dans un premier scénario, la violence reste sporadique et d'intensité relativement faible et un processus politique se poursuit, de même que des efforts pour déployer une force de l'Union africaine. Dans le deuxième scénario, la sécurité se dégrade de manière importante à Bujumbura et ailleurs. Il n'y a pas de processus politique crédible et la force africaine ne parvient pas à se déployer. Bujumbura s'oppose pour l'instant au déploiement de cette mission africaine de prévention et de protection au Burundi, Maprobu, forte de 5000 hommes. Le scénario 3 mène au génocide, violence à caractère clairement ethnique et de bien plus grande ampleur et intensité, avec la perspective de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide.
En Angola, le procès de 17 opposants au régime du président José Eduardo dos Santos, qui devait se terminer jeudi, a été ajourné au 25 janvier, chez Rubin Dorsil.
Les audiences ont été temporairement suspendues pour reprendre du 25 au 29 janvier, a expliqué Luis do Nascimento, l'un des avocats des accusés. Plus de 50 témoins sont attendus à la barre d'ici la fin du procès, mais seulement 2 se sont présentés lundi lors de la reprise des auditions et aucun ne s'est déplacé mardi. Les 17 militants accusés de rébellion et de tentative de coup d'État sont membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola. Ils demandent le départ du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. 15 d'entre eux ont été emprisonnés, mais sont maintenant assignés à résidence et 2 comparaissent libres. Ils nient tous les charges qui pèsent sur eux, assurant être des partisans d'une lutte pacifique. Ils risquent entre 3 et 12 ans de prison.
Les équipages de 2 navires américains de navires militaires appréhendés hier par l'Iran, qui les accuse d'être entrés dans ses eaux territoriales, seront libérés tôt ce matin. C'est ce qu'a annoncé un officiel de la Défense à de multiples sources d'informations. Eh bien, maintenant, concernant les militaires américains, une partie du camp démocrate a vivement critiqué hier le président Barack Obama après une vague d'arrestations de clandestins originaires d'Amérique centrale en vue de leur expulsion. C'était peu avant son discours sur l'état de l'Union. John Lydon nous en dit plus.
Les autorités américaines ont annoncé la semaine dernière avoir arrêté 121 adultes et enfants en situation irrégulière au Texas, en Géorgie et Caroline du Nord. Ces familles sont sous le coup d'un ordre d'expulsion. J'estime qu'il faut arrêter ces raids, a déclaré Hillary Clinton, candidate aux primaires démocrates. Elle a ajouté dans un communiqué critique de M. Obama, je cite, « Nous ne devrions pas envoyer des officiers fédéraux armés dans les maisons des gens, tirant femmes et enfants de leur lit au milieu de la nuit. » Aussi, 135 représentants démocrates ont co-signé hier une lettre l'appelant à cesser immédiatement ces opérations du département de la sécurité intérieure ciblant des illégaux venus du Salvador, du Honduras et du Guatemala. En 2014, une vague de mineurs traversant la frontière avec le Mexique avait provoqué une crise politique. Les républicains accusaient la Maison-Blanche de laxisme, ce qui a enterré tout projet de régularisation des quelques 11 millions d'immigrés clandestins vivant aux États-Unis.
Tirage aujourd'hui du jackpot de la loterie américaine Powerball qui est passé à 1,5 milliard de dollars. Bagasikoura.
Le tirage de la loterie Powerball a lieu 2 fois par semaine, le samedi et le mercredi. Donc aujourd'hui, samedi dernier, le jackpot avait fini à 950 millions de dollars. Faute de gagnants, il est passé dimanche à 1,3 et ce mardi à 1,5 milliard de dollars. Il faut cocher 5 chiffres et le complémentaire, mais les chances de gagner sont infimes. Une chance sur 292 millions. Malgré tout, l'engouement est au maximum. Les kiosques de vente de tickets sont assaillis par de longues files. Certains acheteurs sont même venus spécialement du Canada ou du Mexique voisin pour tenter leur chance. Gary Grief, président de Powerball, assure que c'est même du jamais vu. Le Powerball se joue dans 44 États américains, dans la capitale fédérale Washington, à Porto Rico et les îles Vierges américaines. Que faire avec 1,5 milliard de billets verts? Tout le monde se met à rêver et saura ce soir s'il y a un heureux gagnant.
La Minute Éco avec Chérubin Dorsil.
La Guinée-Bissau et le Sénégal négocient depuis hier à Bissau sur l'accord de gestion de la zone maritime commune aux deux pays et les règles de pêche qui s'y appliquent. Selon Jeune Afrique, ces échanges doivent à terme aboutir à la signature d'un nouveau protocole d'accord bilatéral couvrant un périmètre qui s'étend sur une superficie de 9 838 km² et dont les eaux, réputées poissonneuses, attirent aussi bien des navires de pêche industrielle que des embarcations de pêche traditionnelles. L'Agence de gestion et de coopération, instituée en 1995, est chargée de l'administration de la zone commune. En attendant l'aboutissement de ces nouvelles négociations, la durée d'application du protocole ayant expiré le 21 décembre, a été prorogé de 6 mois. Si vous vivez dans un pays africain dont l'économie dépend du pétrole, eh bien, préparez-vous à davantage de mauvaises nouvelles. Les cours du brut sont brièvement tombés hier à moins de $30 le baril en séance à New York, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis décembre 2003, dans un marché toujours accablé par la surabondance et des incertitudes sur la demande. Le ministre nigérian des ressources pétrolières a appelé à un sommet anticipé des pays membres de l'OPEP début mars. Dans la deuxième économie d'Afrique, les infrastructures routières laissent beaucoup à désirer. En fait, rappelle l'AFP, les routes sud-africaines comptent parmi les plus dangereuses du continent. Plus de 1700 personnes y ont trouvé la mort pendant les vacances de fin d'année, soit une augmentation de 14% par rapport à la même période il y a un an, selon les chiffres officiels publiés ce mardi 12 janvier.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En football, le défenseur des Corbeaux, Jean Kasusula, peut reprendre le jeu.
Oui, selon Foot Africa, il était indisponible depuis l'automne en raison d'une fracture au bras. Le défenseur latéral international congolais du TP Mazembe, Jean Kasusula, a été autorisé à reprendre l'entraînement, ce qui est un grand pas vers le retour à la compétition. Le latéral gauche profite de petits ateliers spécifiques pour se remettre en place après 2 mois d'arrêt, indique le club congolais sur son site officiel.
Corruption à la FIFA, nouvelle arrestation.
Oui, l'ancien président de la Fédération guatémaltèque de football, Brian Giménez, impliqué dans le scandale de corruption de la FIFA et dont les États-Unis demandent l'extradition, a été arrêté hier mardi. Giménez ainsi que 15 autres dirigeants latino-américains sont impliqués dans le cadre de l'enquête pour corruption au sein de la FIFA et blanchiment d'argent.
FIFA toujours, le débat télévisé entre les candidats à la présidence a été annulé.
Oui, ce débat télévisé était prévu le 29 janvier à Londres entre les 5 candidats à l'élection à la présidence de la FIFA le 26 février. Très décevant que ESPN doive annuler ce débat télévisé, a regretté hier le Français Jérôme Champagne sur son compte Twitter. Selon l'AFP, un porte-parole de la chaîne américaine a confirmé que le débat n'aurait pas lieu. Nous avons invité les 5 candidats pour prendre part à un débat et on a fait tous les efforts possibles pour envisager avec eux toutes les options logistiques possibles. En fin de compte, nous n'avons pas eu les engagements nécessaires pour produire un programme fidèle à nos standards, a expliqué la chaîne américaine ESPN.
Mario Balotelli, de retour sur le terrain.
Il n'avait plus joué depuis fin septembre à cause d'une pubalgie ou la douleur au pubis. Il pourrait faire son retour avec l'AC Milan ce mercredi, même en Coupe d'Italie. Selon l'entraîneur du club Sinisa Mihalovic, Balotelli a été opéré en novembre. L'attaquant italien, prêté par Liverpool, n'a porté que 4 fois le maillot du Milan cette saison et n'a plus joué depuis le 27 septembre.
8e de finale de la Coupe du Roi en Espagne.
Le FC Séville, écrasant vainqueur du Betis Séville 4-0 dans le derby sévillan, s'est qualifié hier pour les quarts de finale de cette Coupe du Roi. De son côté, le Deportivo La Corogne a été éliminé par Mirandes, club de 2e division, après sa défaite 3-0. Et puis enfin, Idrissa, pour terminer, quelques résultats du championnat de basketball nord-américain.
Indiana 116, Phoenix 97, San Antonio 109, Détroit 99, New York Knicks 120, Boston 114, Houston 107, Memphis 91, Milwaukee 106, Chicago 101, Oklahoma City 101, Minnesota 96 et Cleveland 110, Dallas 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Comme promis, nous allons retrouver Anastasie Toudiech pour des analyses sur le discours de l'État de l'Union du président Barack Obama. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période électorale et certains candidats côté républicain n'ont pas hésité à exploiter la peur du terrorisme après Paris, après San Bernardino. Et j'ai été particulièrement frappé par cette phrase du président Barack Obama quand il a dit « des masses de combattants à l'arrière de pick-up et des esprits torturés complotant dans des appartements ou des garages posent un énorme danger pour les civils et doivent être arrêtés, mais ils ne représentent pas une menace existentielle pour notre nation. » Ce qui était une façon, comme vous l'avez dit dans la première partie, de relativiser les choses.
Absolument. Et puis on reconnaît aussi là le sens de la phrase, le sens du mot, hein, le goût du mot de ce président qui est à la fois écrivain aussi, ne l'oublions pas, ça rappelle un autre président en Afrique. Parmi les personnes que j'ai contactées pour analyser, justement, ce discours de Barack Obama quant au terrorisme a frappé notamment l'un d'eux qui s'appelle Emil Baroudi. Il est journaliste libanais, il est installé à Washington DC depuis un certain temps. Et pour lui, le discours du président américain est clair et nuancé tout à la fois. Écoutons-le.
Il était très clair. Pour lui, Daesh ne menace pas les États-Unis, mais elle menace la vie de citoyens américains. Il garde cet aspect terroriste de Daesh. Il ne la compare pas à vraiment un État qui pourrait mettre en danger l'État des États-Unis. Il a aussi rappelé que l'État islamique veut faire croire qu'ils peuvent détruire les États-Unis. Il les a remis un peu à leur place en les accusant de vouloir se faire les représentants de toute une religion. Il a rappelé aussi les actions militaires que les États-Unis prennent actuellement contre Daesh. Le bombardement aérien des zones pétrolières, l'entraînement de forces locales pour reprendre du terrain à Daesh, que ce soit en Syrie ou en Irak. Et même, il a un peu défier le Congrès. S'il n'aime pas ce qu'il fait, s'il trouve que c'est insuffisant, ils n'ont qu'à autoriser l'utilisation de la force militaire. Mais il a aussi rappelé qu'au-delà de Daesh, c'est l'instabilité de certains pays, au Moyen-Orient surtout, qui pourraient devenir eux-mêmes des bouillons de culture pour des mouvements terroristes. Et aussi, il a parlé des famines ou des guerres civiles qui pourraient causer des vagues de réfugiés aux portes des États-Unis ou même aux portes de l'Europe.
Et il a parlé.
Et il a aussi rappelé que les États-Unis ne pouvaient pas s'occuper de. Aller occuper n'importe tout pays ou être le gendarme du monde. Il a invité à une interaction entre toutes les forces internationales pour pouvoir faire quelque chose. Il a donné comme exemple le nucléaire iranien. Il n'a jamais caché sa volonté de fermer Guantanamo. Personnellement, je doute qu'il puisse faire quelque chose dans cette année qui lui reste.
Voilà le journaliste Émile Baroudi sur la lecture multipolaire du président américain quant au terrorisme et au danger qu'il représente aux États-Unis. Pour René Lake, analyste politique, lui a été frappé par la capacité de projection de Barack Obama, dont il loue par ailleurs un peu plus loin le bilan africain. Écoutez.
Écoutez, la première chose que je retiens et qui m'a beaucoup impressionné, c'est le côté un peu visionnaire du président Obama. Visionnaire au sens où il s'est beaucoup focalisé sur le futur de l'Amérique. Alors c'est assez étonnant parce que bon, pour un président qui est en fin de mandat, on s'attendait plus à ce qu'il insiste surtout sur le côté bilan, surtout que de mon point de vue, il a eu une présidence qui a été tout à fait exceptionnelle, qui a été transformatrice, je crois, de l'Amérique. Bien entendu, les républicains diront peut-être transformatrice, pas de manière positive.
Dans cette projection dans le futur qui effectivement peut surprendre, quels sont les points qui vous ont paru les plus étonnants ou qu'il faudra suivre de près ?
L'initiative la plus importante, et je pense que c'était peut-être de son point de vue l'information la plus importante, c'est l'initiative qu'il a annoncée par rapport à la lutte contre le cancer. Il l'a annoncé et les moyens et la volonté politique qu'il y a derrière, il l'a comparé à celle de l'engagement de l'Amérique dans la bataille de l'espace qui a mené l'Amérique à faire allunir le premier homme qui a marché sur la Lune. Autre point que j'ai trouvé très intéressant, ça a été la question de l'énergie renouvelable. Ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Et c'était intéressant parce qu'il a mis dans le contexte de la problématique du réchauffement climatique. Et également, il y avait à la fois le côté réchauffement climatique, mais il y avait également la question économique pour montrer que l'énergie renouvelable est porteuse de grands espoirs, de grands investissements pour les États-Unis et pour le reste du monde.
Oui, qu'elle n'est pas qu'une question écolo au fond, c'est aussi une question d'économie.
Ce n'est pas juste une question
de la première économie au monde.
Économique.
Voilà pour René Leic. Et enfin, Rachel Descoste, activiste et contributrice au HuffPost canadienne, installée à Washington DC aussi. Elle a reconnu l'énergie de l'Obama des débuts, celui de Yes We Can.
Je pense que les Américains savent aujourd'hui qu'ils ont fait des erreurs en envahissant le Vietnam dans les années 60-70 et la guerre en Irak qui leur a coûté plusieurs vies et beaucoup d'argent. Et ils ne sont pas prêts à se relancer pour aucune raison dans une autre lancée guerrière. Et puis en même temps, Obama a fait appel aux politiciens de ne pas réduire leur discours à l'islamophobie et le racisme.
On a vraiment senti là qu'il rendait coup pour coup à Donald Trump.
Mais je pense que Donald Trump était visé. Et puis il y a beaucoup d'autres républicains qui font le même discours. Effectivement, je pense qu'il veut rappeler les Américains leur passé, leur culture, leurs valeurs d'égalité et surtout de respect dans la diversité qui fait la force du pays. C'est vraiment revenir aux sources. Mmh. On se rappelle du début de la campagne d'Obama, son slogan c'était « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Je pense que c'est comme ça que les Américains sont tombés en amour avec lui. C'est quand il parlait d'une Amérique forte, une Amérique unie, une Amérique où les citoyens ont un pouvoir, un devoir de faire leur possible pour changer les choses, de ne pas s'attendre à ce que le président le fasse lui-même. Il a dit ça, je pense, même dans son discours d'ouverture quand il a été nommé président. Donc vraiment, c'est un retour à ce qu'il a toujours dit. Qu'il peut faire son possible, mais c'est en réunissant tous les Américains qu'il peut réaliser ses objectifs. Donc pour moi, c'était vraiment un retour à ce qu'il a dit à ses débuts.
Voilà, ce que je peux en dire ce soir, Drissa, c'est que vraiment qu'on soit partisan, que les personnes auxquelles j'ai parlé, qu'elles soient partisanes ou détracteurs ou simplement simples observateurs, l'énergie du président et la volonté de faire a forcément touché.
Merci, Anastasie Toudiache.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ailleurs dans le monde, la constitution de la RDC aura 10 ans en février. Un groupe de Congolais opposés à sa modification ou son changement lance une campagne de sensibilisation. Eddie Sango a joint l'un des animateurs du groupe, la Coalition des Congolais pour la Transition, Eléther Omari.
La constitution qui a été adoptée à plus de 80% de la majorité des Congolais doit continuer. Mais M. Kabila, lui, en tant que garant de la constitution, il est entré. Il a violé cette constitution à plusieurs reprises. Et maintenant, il est en train de préparer la mort de cette constitution en organisant un faux dialogue pour continuer à se maintenir au pouvoir. Et nous, en tant que la CCT, nous nous insurgeons en faux contre ce dialogue pour dire que M. Kabila, la majorité du peuple congolais, de la population congolaise, dit non à ces dialogues, comme la classe politique congolaise. Mais M. Kabila, il veut utiliser la force pour détruire cette constitution. La raison fondamentale de cette campagne contre les dialogues organisés par M. Kabila et sa famille politique.
Que faites-vous concrètement dans votre campagne?
Dans notre campagne qui sera lancée le 18 janvier à partir partir de la province du Nord-Kivu à Goma, il est question de sensibiliser la jeunesse, les peuples congolais d'une manière générale, pour leur montrer pourquoi la CCT dit non au dialogue, pourquoi la CCT dit non aux élections organisées par M. Kabila. Puisque la CCT, étant donné la situation très catastrophique et dégradante au niveau de notre pays, la souffrance de notre peuple, la CCT se dit qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on arrive à une transition qui va préparer les élections libres et démocratiques, qui va donner lieu à une nouvelle république avec les normes démocratiques.
N'avez-vous pas peur d'être mis en prison parce que le président Joseph Kabila a lui-même menacé tous ceux qui ne veulent pas aller au dialogue et qui menacent de faire des ordres? Il y a aussi le procureur général de la République qui a réitéré les mêmes menaces.
Nous connaissons très bien que le dialogue organisé par M. Kabila égale la mort de tous ceux-là qui réfutent ce dialogue. Mais nous, peuple congolais, nous disons ceci. Dans 15 ans de pouvoir de M. Kabila, le peuple congolais a enregistré un bilan catastrophique après la Deuxième Guerre mondiale de plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Nous nous disons, on aura peur d'être emprisonné jusqu'à quand? On aura peur d'être assassiné jusqu'à quand? On se dit, qui veut la paix prépare la guerre. Nous, nous voulons la paix et par conséquent, cette paix a un prix. Le prix de cette paix, c'est l'emprisonnement, c'est l'assassinat. Nous nous disons que c'est aujourd'hui ou à jamais.
C'était Eleuther Omari, secrétaire général de la coalition des Congolais pour la transition.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Tchad, deux membres du gouvernement ont fait hier mardi à N'Djamena une communication relative aux multiples réactions des syndicats et diplômés sans emploi quant à la suspension de l'intégration des jeunes diplômés à la fonction publique. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodmadjingar.
Il s'agit du ministre de la fonction publique Abdraman Mukhtar Mahamat et celui des finances et du budget Ngarlena Dokdjengar. Il a été question au cours de cette communication de lever l'équivoque sur les informations selon lesquelles l'intégration à la fonction publique sera gelée pour 2 à 3 ans à cause de la conjoncture financière. Le ministre de la fonction publique rassure l'opinion nationale que la loi des finances 2016 prévoit bel et bien 5 milliards de francs CFA pour le recrutement de plus de 5 000 jeunes, alors que son collègue des finances a déclaré le 30 décembre 2015 que le gouvernement ne sera pas à mesure de prendre cette responsabilité. Abdraman Mukhtar Mahamat.
Pour ces 5 milliards, 3 milliards pour l'éducation nationale, où on pourra déjà recruter 1200 jeunes. Et pour la santé, il y a 2 milliards où nous pourrons aussi recruter 800 jeunes. À cela va s'ajouter les remplacements numériques où déjà donc, de 2012 à 2016, on a 3065 anciens qui ont quitté la fonction publique et ces places vont être utilisées pour les jeunes diplômés. C'est juste pour rassurer les jeunes, pour rassurer l'opinion nationale qu'il y a bel et bien recrutement à la fonction publique, mais sur le mode donc, de ce recrutement là, qui a changé.
Le ministre des Finances, Ngarlena Dokdjengar, donne les raisons qui ont amené le gouvernement à changer ce mode opératoire dans le recrutement des jeunes à la fonction publique.
Il y a de cela 2 ans, nous avions fait un recensement biométrique. Il est apparu que les jeunes sont intégrés à la fonction publique et ils se permettent d'aller travailler dans des boîtes privées. Nous avions dénombré plus de 5000 fonctionnaires qui sont en situation irrégulière. Ces 5000 fonctionnaires percevaient le salaire et à la fonction publique et également dans les boîtes privées. Donc il va falloir corriger cela. C'est pourquoi l'objectif est de contractualiser avec les jeunes.
Ce revirement intervient un jour avant l'expiration de l'avertissement de la coalition des lauréats en instance d'intégration qui menace d'engager des actions ce mercredi si le gouvernement ne revient pas sur sa décision. Aussi, l'Union des syndicats du Tchad et le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad demandent-ils au gouvernement d'annuler la mesure de suspension de l'intégration à la fonction publique. Ces deux organisations tiennent pour seul responsable le gouvernement pour sa mauvaise gestion. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Aujourd'hui, plusieurs missions en Afrique sont qualifiées d'échecs alors que les allégations de viol se multiplie contre des casques bleus. Mais Hervé Latsou, le patron de ce département, est d'avis que beaucoup d'Africains ont retrouvé, grâce aux Nations Unies, la perspective d'une vie meilleure. Qu'en pensez-vous? Les missions de paix onusiennes ont-elles encore leur légitimité en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.